Bonjour et bienvenue dans le 9e et dernier numéro de la saison de l'analyse des experts, une émission proposée par le site internet horseball.org.
Plus que quelques jours avant la dernière étape du championnat Pro Elite 2015 qui se dispute ce week-end au Rajardi.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission dans laquelle nous allons nous plonger dans le monde du horseball.
Entre analyse, actualité et interview, nous allons essayer de vous livrer un maximum d'informations sur la discipline.
Nous sommes le mercredi 17 juin 2015 et sans plus attendre, retrouvons le sommaire de l'émission.
Retour sur la 8e étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait à Bordeaux.
La qualité de l'organisation avec la note des équipes.
Notre rubrique expert comptable.
L'analyse des rencontres, le classement, les bonnes et les mauvaises opérations.
Et bien entendu, les impressions des différents acteurs du circuit.
Nous ferons ensuite un petit récapitulatif du championnat de France Pro dont la dernière étape se tenait également à Bordeaux.
Puis nous reviendrons sur les finales des championnats de France féminins qui se sont disputés à Cluny les 6 et 7 juin derniers.
Nous parlerons aussi des équipes de France avec les compositions des équipes de France Under 16 et Lady, ainsi que les résultats du tournoi amical Under 21 qui s'est disputé à la Motte Beuvron.
Nous prendrons la direction enfin du Rajardi pour la présentation des matchs au programme de cette dernière étape de la saison 2015 du championnat de France Pro Elite.
Bienvenue dans le 9e numéro de l'analyse des experts. Nous débutons notre émission par un retour sur la dernière étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait à Bordeaux les 8 et 9 mai derniers.
Oui, avant d'analyser les résultats sportifs, découvrons tout de suite la note moyenne que les 10 équipes Pro Elite ont attribuée à l'organisation.
8,5 sur 10.
7,5 sur 10.
6,5 sur 10.
6 sur 10.
6 sur 10.
5 sur 10.
5 sur 10.
4 sur 10.
7 sur 10.
6 sur 10.
Voilà donc une moyenne de 6,15 sur 10 donnée par les responsables des équipes Pro Elite.
Et à noter également que la note donnée à l'organisation par le délégué technique fédéral est de 7,12 sur 10.
Après 8 étapes, voici donc le classement des organisations. Le podium est constitué des étapes de Saint-Lô en première position avec 8,53. Le Mans en deuxième position avec 8,25 et Mâcon avec 8,19. En quatrième position, c'est Saumur avec 7,95. Chazet ensuite avec 7,40. Sixième, Rosière 7,26, Bordeaux 7e avec 6,63 et Tarascon avec 6,25. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec les données sportives à date avec notre rubrique expert comptable.
Meilleures attaques, meilleures défenses, meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, podium WHBO, sanctions, des chiffres et des données en pagaille pour un état des lieux du championnat de France Pro Elite à l'issue de la 8e étape de Bordeaux.
160.
C'est le nombre de buts inscrits par la meilleure attaque du championnat qui est Arles HCC, 91.
91, c'est le nombre de buts encaissés par l'équipe de Bordeaux qui n'est autre que la meilleure défense du championnat. 8.
C'est le nombre de buts inscrits par le meilleur buteur de l'étape, à savoir Romain De Ponce pour l'équipe de Bordeaux, 48.
48, c'est le nombre de buts marqués par Benoît Lévesque qui est pour l'instant le meilleur buteur au classement général du championnat de France Pro Elite. 80.
C'est le nombre de points du meilleur joueur au classement WHBO, à savoir Adrien Crous-Marty pour l'équipe de Chambly.
2. 2, c'est le nombre de cartons qui ont été distribués sur l'étape de Bordeaux. Il n'y a eu aucun carton en distribué en Pro Elite. Et sur la saison, nous sommes pour l'instant à un total de 29 cartons distribués par les arbitres. 8.
8, c'est le nombre de cartons distribués par l'arbitre le plus sévère de la catégorie, à savoir Quentin Gauthier-Lafaille. Il est suivi en deuxième position par Jean-Marc Sor avec 7 cartons. Et enfin, Denis Boulard sur la troisième marche du podium avec 5 cartons. 161.
161, c'est le nombre de buts inscrits par les équipes Pro Elite sur l'étape de Bordeaux. L'année dernière, il y en avait eu 133. Cette année, donc, les joueurs ont été plus productifs puisque 28 buts ont été marqués en plus par rapport à la saison dernière. Retour maintenant sur les 10 matchs qui étaient au programme de la dernière étape qui se disputait à Bordeaux. Les bonnes, les mauvaises opérations, on vous dit tout sur les résultats importants et on commence tout de suite par les prétendants au titre.
Oui, pas de changement en tête, Arles HCC continue sa lancée après une étape de Chazet en demi-teinte. Le collectif arlésien a séduit lors de la dernière étape grâce à 2 victoires franches contre des adversaires sérieux, Angers 6e et Lille et Méroc 5e.
Tous les compteurs sont donc au vert pour l'équipe tenante du titre, surtout que dans le même temps, Bordeaux a buté contre la Lanterne Rouge avant l'étape, qui était l'équipe de West Lyon.
Et en effet, si Arles HCC n'a pas fait de fausse note, ce n'est pas le cas du deuxième prétendant au titre, Bordeaux. Les locaux de l'étape signent une contre-performance qui pourrait leur coûter cher en fin de saison quand il s'agira de compter les points. Opposé à une équipe de West Lyon qui occupait la 10e position avant l'étape, l'équipe de Bordeaux se devait d'assurer l'essentiel alors qu'un petit point ne laissait pas Red Arles. Occasion manquée donc avec ce match nul qui les place à 2 longueurs du leader et qui compromet largement les chances de titre.
Derrière, Chambly continue sa course en solitaire, auteur une nouvelle fois d'un week-end à 6 points. Les joueurs franciliens ont pris un avantage décisif sur leur concurrent direct, à savoir Coutainville-Iséa. Ils ont un retard de 4 points sur le deuxième Bordeaux et une avance de 6 points sur le quatrième Coutainville. Il faut dire qu'a priori, la troisième marche du podium a de grandes chances d'être aux couleurs chamblysiennes cette année. Et derrière, l'étau se resserre entre les équipes.
En effet, les cavaliers normands de Coutainville-Iséa semblent dans la même posture que Chambly. Un retard de 6 points, une avance de 4 points sur son poursuivant. Il paraît donc compliqué d'espérer mieux qu'une quatrième place. Une place qui peut se révéler frustrante pour cette équipe qui est capable de renverser les plus grands, mais qui se laisse trop souvent surprendre par des adversaires à sa portée. On laisse le micro à Cernin Pitois, coach de la formation au Maillot Rose.
Alors le bidon du week-end, il est finalement assez bon, même si on prend une lourde défaite contre Chambly. Mais bon, Chambly, là, comme ils sont en train de faire contre Angers, première mi-temps, ils étaient largement au-dessus de nous. Après, on réagit un peu deuxième mi-temps, mais bon, c'est contre une équipe comme ça, c'était largement trop tard. Donc au débriefing, bien sûr, on était très vexés de notre performance. Maintenant, il faut relativiser. Chambly, c'est une très belle équipe qui est promise à un bel avenir, je pense. Et puis aujourd'hui, on gagne contre Bellegarde, qui finalement est un concurrent assez direct pour nous, parce que nous, on veut conserver notre quatrième place. Et on fait preuve déjà d'une bonne réaction par rapport à hier, et puis de maturité, quoi. On fait un jeu simple et on marque des buts importants et on gagne 8-4, je crois. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'on a fait du bon travail en réaction au match de samedi. Bah nous, l'objectif, maintenant, c'est la quatrième place. Je me demande si elle n'est pas assurée, là. Maintenant, on pourra parler de la fin de saison à Jardy, du bilan de saison. On est bien sûr déçu de ne pas être troisième parce que c'était quand même un objectif début de saison. Mais on a bien vu qu'on n'est pas encore dans la même catégorie que les trois équipes du podium et qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à leur niveau. Voilà.
Dans le reste du classement, les choses sont loin d'être aussi limpides. Lille aime Eroc, signe un faux pas qui lui vaut de décrocher un petit peu dans la lutte pour la quatrième place. Opposé à Loire-sur-Rhône, les joueurs lillois signent un match nul sur le score de 8 buts partout. Le lendemain, une défaite contre Arles-HCC. Les joueurs du Nord signent un week-end avec un maigre bilan, 3 points seulement.
Pour autant, la chance sourit à Lille. Le seul candidat crédible pour venir leur voler cette cinquième place, Angers, a dû composer avec un tirage délicat. Opposé à Chambly et Arles-HCC, les joueurs angevins ne parviennent à ramener que 2 points de l'étape girondine. Et ce maigre bilan fait les affaires d'Aramonsas, vainqueur du derby du Sud. Dans la confrontation avec Bellegarde, les joueurs aramonais gagnent une place pour s'emparer de la 7e position. Angers, Aramon, Bellegarde, 3 équipes se tenant en 2 points de la 6e à la 8e place. Et on finit ce bilan avec un point sur la zone de relégation. Comme on vous le disait plutôt, Ouest-Lyon et Loire-sur-Rhône ne parviennent pas à se démarquer en réalisant l'exploit contre Lille-Emeroc. Loire-sur-Rhône pensait prendre un avantage décisif dans la lutte pour la 9e place. Pour autant, Ouest-Lyon a réalisé l'impensable en arrachant le nul face à Bordeaux. Mais c'est le dimanche que Ouest-Lyon réalise la bonne opération dans le choc qui opposait les deux équipes. Ouest-Lyon écrase Loire-sur-Rhône sur le score sévère de 10 buts à 4. Et on retrouve d'ailleurs à ce titre Raphaël Delmotte de la formation lyonnaise.
On est déjà content d'avoir fait un week-end comme ça. Après, c'est plus un barreau d'honneur parce qu'on sait que le maintien, il est quasiment déjà perdu. Mais bon, ça nous donne du plaisir et on espère bien finir à Jardy. Par rapport à il y a 2 ans, on a peut-être un petit peu de regret parce qu'on a un sentiment qu'on est passé à côté, mais beaucoup moins loin que l'année dernière. Parce que c'était beaucoup plus accroché tous les matchs. Et donc, c'est quand même une bonne saison pour nous. Donc c'est vraiment dommage que ça ne suffise pas, malheureusement.
Pour autant, avec un retard de 3 points entre le premier relégable et le dernier non relégable, l'étau se resserre et le maintien s'éloigne pour les formations de Ouest-Lyon et de Loire-sur-Rhône, d'autant que le tirage de la dernière étape ne sera pas des plus faciles à appréhender. L'étape de Bordeaux était également l'occasion de voir évoluer les 8 équipes qui composent le championnat de France Pro et parmi les 8 matchs au programme de cette étape, des résultats pour le moins inattendus.
Et on commence tout de suite par les belles opérations du week-end. Et c'est l'équipe de Rouen qui sort grande vainqueur de cette étape. 6e avant l'étape, les anciens pensionnaires de Pro Elite gagnent 2 places et se retrouvent au pied du podium. En cause, une victoire sur le fil contre Nancy, 3e au général, et une victoire contre Ouest-Lyon, lanterne rouge. Avec ce week-end à 6 points, la formation rouennaise revient à un point de la 3e marche du podium, occupée par Nancy-Lorraine, justement. Du côté des bonnes opérations, on notera également le nouveau week-end à 6 points de l'équipe de Mâche, auteur lors d'une saison complète, les joueurs franciliens sont maintenant assurés non seulement de la montée mais également du titre, et ce peu importe leurs résultats sur la dernière étape de Jardy. En effet, avec 34 points, les joueurs de Jean-Michel Pignal comptent 7 points d'avance sur leur concurrent direct Chambly. Mais en cas de défaite des joueurs marchois, les 2 points à récolter leur confrèrent donc un total de 36 points, quand dans le même temps, en cas de double victoire, Chambly ne peut espérer finir mieux qu'avec un total de 33 points. La formation chamblysienne, seul obstacle pouvant encore se dresser sur la route de l'équipe de Mach, n'a pas réussi à prendre le dessus et laisse donc filer en tête cette équipe. En témoigne la joie de la formation francilienne. On écoute tout de suite Johan Pignal, joueur de l'équipe de Mach.
Alors, un bilan vraiment très très satisfaisant. Là, on est tous super heureux. Il y avait énormément d'objectifs, d'attentes de la part de notre nouvelle équipe cette année. On a reformé un groupe le plus compétitif possible pour réussir justement à cet objectif de monter et ensuite d'être champion. Là, on est champion ce week-end, peu importe les résultats de Jardy. Donc, on est tous super contents. On va pouvoir commencer à préparer la saison prochaine sereinement. Donc là, on se fait méga plaisir sur un week-end de Bordeaux ensoleillé. Pour nous, il y avait le résultat qui comptait, mais aussi la manière. Et on arrive à produire 2 matchs assez sympas, je pense, à jouer d'une partie, d'une part. Et d'autre part, je pense, pour le public, à regarder avec des actions assez freestyle, spectacle, enfin tout ce qu'on a pu faire, voilà. On est vraiment super, super heureux. On avait presque la larme à l'œil, on a bu notre petite coupe de champagne et on va attaquer Jardy sereinement. Et là, on va rentrer avec le sourire parce qu'on a encore un peu de route à faire, mais vraiment, on est tous méga, 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 méga heureux. Wouh!
Pour Chambly, après une victoire nette face à l'équipe de Vendegy, hein, 5e au classement provisoire, mais malheureusement les joueurs se sont inclinés face à leur concurrent direct de Mach. Donc un week-end à 3 points pour les Chamblysiens, qui leur vaut de conserver la 3e place. Mais il faut se faire attention, car la pression de la part du poursuivant direct Nancy-Lorraine reste quand même assez présente.
En effet, comptabilisant également une défaite et une victoire sur l'étape bordelaise, les joueurs de Nancy-Lorraine restent au contact avec un seul petit point de retard. Derrière, outre la montée de Rouen, très peu de changements à signaler. Vendegy, Lyon, Gif et Ouest-Lyon se répartissent dans cet ordre de la 5e à la 8e place.
Les écarts restent encore très limités et les chauves peuvent très vite évoluer, alors qu'il reste encore une étape à jouer dans ce championnat. Pour autant, Gif 7e et Ouest-Lyon 8e ferment toujours la marche et voient leur chance de maintien s'amenuire à mesure que la saison avance, avec un retard de 3 points sur le premier non relégable. Ce sont des impératifs de victoire qui attendent les deux formations au haras de Jardy.
Pour autant, tout reste encore jouable dans ce championnat qui tient toutes ses promesses en termes de suspense. Il y a fort à parier que les déçus d'aujourd'hui ne soient pas les mêmes lors de la remise des prix du haras de Jardy.
Direction tout de suite le grand tournoi et la mode Beuvron qui accueillait une nouveauté cette année. C'était le tournoi des équipes de France de moins de 21 ans qui s'est déroulé les 23 et 24 mai dernier.
Ce tournoi opposait deux formations de 5 cavaliers. L'équipe A était composée d'Ellington Barnes, Benjamin Baudin, Antoine Cocoïnac, Pierrick Jodon et Lucas Verquin. Opposé donc à l'équipe de France moins de 21 B, composée de Romain Delberg, Marius Doy, Tom Dupont, Nathan Fabre et Antoine L'Espèce.
Luc Lagarde était au bord du terrain pour l'équipe de France A, et tandis que pour l'équipe de France B, c'était Christophe Desormeaux qui était aux commandes du groupe.
Le résultat final, même s'il n'est pas très important, se solde par une victoire partout pour chacune des équipes, mais c'est quand même l'équipe de France A qui gagne ce tournoi amical à la différence de but. L'équipe de France A est donc première, l'équipe de France B deuxième.
On écoute tout de suite Christophe Desormeaux qui va nous faire un petit récapitulatif de cette expérience des moins de 21 ans qui semble être sur la bonne voie pour se pérenniser, avec pourquoi pas des équipes étrangères la saison prochaine et l'intégration parmi les jeunes joueurs de moins de 21 ans d'un joueur cadre de l'équipe de France Pro Elite, afin de parfaire l'encadrement et la transmission de l'esprit et de l'expérience de l'équipe de France.
Eh bien, le bilan qu'on peut tirer de ces deux jours à la mode, c'est qu'on a atteint un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé de faire une revue d'effectifs de la classe d'âge des moins de 21 pour commencer à préparer l'avenir et que ces jeunes rentrent un petit peu dans le cadre, dans le moule de l'équipe de France des Grands. Donc à savoir le comportement qu'un joueur doit avoir quand il a le maillot sur le dos, et puis la transmission du savoir, parce qu'on s'est rendu compte qu'intégrer un jeune qui arrive des cadets, qu'on a pu voir dans le filtre des cadets, et le laisser seul pendant 2 ou 3 années, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc là, on a envie d'avoir une courroie de transmission qui nous permette de gagner justement du temps. Et on espère aussi pouvoir peut-être se servir d'un ou deux cadres de la grande équipe pour faire passer les messages. Donc bilan, pas de surprise, il y a besoin de continuer à travailler les chevaux. Ça, c'est si je dois résumer, c'est le point noir. C'est ce qui va leur permettre de devenir des champions, ou sinon, ils resteront à la porte.
Le Grand Tournoi a été également l'occasion pour Raphaël Dubois, sélectionneur et entraîneur national, de divulguer la liste des 8 noms et des 8 joueurs, des 8 jeunes joueurs qui composeront l'équipe de France de moins de 16 ans qui disputera le prochain championnat d'Europe à Bordeaux. Ça se tiendra du 27 au 30 août 2015.
Et du côté de la composition de cette équipe, on retrouve donc Baptistine Septuans de l'équipe de Merchin, Mehdi Abbassi de l'équipe d'Em, Perrine Cour de l'équipe d'Aramon, Antoine Ozutovic de l'équipe d'Aubin, Roxane Dubois pour Aramon, Tristan Desmin pour Loire-sur-Rhône, Arthur Contenu pour M et Julie Laguerre pour Aramon.
L'équipe sera encadrée par Raphaël Dubois, sélectionneur et entraîneur. Un tournoi de préparation se tiendra du 10 au 12 juillet 2015 à Saint-Georges-d'Orque. Et avant le championnat d'Europe qui se tiendra à Bordeaux, un regroupement de 1 ou 2 journées se fera dans la région de Bordeaux. Le lieu reste encore à déterminer. On écoute tout de suite Raphaël Dubois, le sélectionneur national, suite à l'annonce de cette sélection.
L'objectif pour le championnat d'Europe, c'est de conserver notre titre, donc de gagner. La sélection a été effectuée sur plusieurs critères. C'est les gamins que j'ai suivis toute l'année, puisque j'ai eu l'occasion de les voir sur des tournois lors des étapes pro-élite, pour la plupart. Ensuite, on en a vu d'autres pendant le stage fin mars à la Motte Beuvron. Et ensuite, on les a revus lors de ce championnat de France à la Motte pendant 3 jours. Voilà. À le niveau global, je crois que le niveau global est assez bon. J'ai réussi à créer, je pense avoir réussi à créer un groupe qui devrait, comme tous les années, assez bien fonctionner. Je pense que, bon, c'est toujours pareil, on ne connaît pas le niveau des étrangers, mais je pense que notre niveau cette année sera bon, sans trop de problèmes, je pense.
Le mois de juin était également l'occasion de voir les formations féminines se rendre sur leur dernière étape de l'année, à savoir les grandes finales féminines à Cluny. Et dans cette édition 2015 du championnat de France Pro Elite Féminin, il y a eu des rebondissements jusqu'au dernier match.
Effectivement, avec 3 points séparant les 5 premières formations avant l'ultime étape, il était bien difficile de savoir à quoi allait ressembler le podium final. Et c'est finalement l'équipe de Merchin qui s'impose dans cette édition 2015 du championnat Pro Elite Féminin. Elle est suivie donc à la 2e position de l'équipe de Coutainville et sur la 3e marche du podium on retrouve l'équipe de Chambéry.
Du côté des relégués, l'équipe de Nancy-Lorraine finit sans surprise dernière au classement général après une saison à vide, et dans le combat final qui opposait les équipes de West Horsball et de Lacanau, c'est finalement West Horsball qui a tiré son épingle du jeu au détriment de Lacanau, qui donc perd sa place parmi l'élite du horsball féminin. On écoute tout de suite Dominique Boucherie qui revient sur la victoire de son équipe de Merchin dans cette édition 2015 de la compétition.
Alors nous apprécions après la saison, c'était une saison super serrée et avec un niveau vachement homogène, et ce qui, je pense, qui nous a permis d'aller au bout, c'est la progression dans le mental des filles. Au fur et à mesure, elles étaient un peu fébriles en début d'année, et forcément comme elles accédaient à ce niveau-là et qu'elles ont mûri au fur et à mesure de la saison. C'est grâce à toute l'équipe et puis pas que les leaders de l'équipe, c'était un vrai collectif.
Un petit passage également par la catégorie amateur élite féminine pour connaître le nom des 2 prochaines formations qui intégreront l'élite la saison prochaine. Au terme de cette mini-saison qui opposait les 8 équipes dans des confrontations directes, ce sont finalement les joueuses de Vieux-Champ et de Rouen-Roumois qui prennent le meilleur sur les concurrentes et s'octroient le droit d'aller côtoyer les meilleures joueuses françaises.
Au chapitre des informations importantes sur l'étape de Cluny, on notera également la présence du sélectionneur national Raphaël Dubois qui a finalement livré sa sélection de 8 joueuses, les 8 joueuses qui seront retenues pour aller porter le maillot tricolore cet été lors du championnat d'Europe qui se tiendra à Bordeaux.
En effet, l'équipe de France, Ladies, sera finalement composée de Cécile Garpillon sur Pamela Delalo pour Montpellier Vallon, Estelle Le Guévac sur Rosine de Rennes de l'équipe de Coutainville-Agrial, Gaëlle Lebris sur Roldensal pour l'équipe de Chambéry, Justine Hamann sur Bonanza Laurière pour Chambly, Magali Denis Lorenz sur Kit Desbros pour l'équipe de Montpellier Vallon, Margot Boucherie sur Bahamian Box pour Merchin, Roman Borde sur Petite Maresca de l'équipe de Lacano et enfin Valentine Descamps sur Unoria pour l'équipe de Merchin. On écoute tout de suite les réactions successives de Gaëlle Lebris et de Roman Borne sélectionnés dans cette équipe de France Ladies.
Eh ben, je pense que c'est une bonne équipe. Hein. Toutes les joueuses qui ont été sélectionnées sont bonnes, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Bah, c'est toujours un peu compliqué l'équipe de France parce qu'on est tous leaders dans nos équipes, donc c'est dur à gérer et c'est pas toujours facile de s'imposer dans le groupe. Donc, ouais, c'est quatre jeunes, mais c'est quatre leaders dans leurs équipes. Donc forcément, en général, ça se passe bien, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en route, quoi.
Oui, je suis super contente, mais surtout hyper surprise parce que c'est ma première année en Pro Elite féminine et que je ne m'y attendais pas du tout. Bah, je pense que c'est un bon groupe, j'en connais déjà certaines, j'ai déjà joué avec certaines et voilà.
C'est le moment maintenant de prendre la direction du Haradjardy où se retrouveront pour la dernière fois de la saison les 10 équipes du championnat de France Pro Elite afin de disputer les 17e et 18e journées de la compétition. Cette étape de grande envergure regroupera également toutes les équipes amateurs ainsi que les 8 formations du circuit pro.
C'est la 8e année consécutive que le Haradjardy est le théâtre des finales des championnats de France seniors de horseball. Cet événement est organisé par l'agence de communication Junity avec le soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine et de la région Île-de-France.
Lors de ce rendez-vous et plus particulièrement lors de la remise des prix qui se tiendra le dimanche 21 juin, nous connaîtrons le nom du cheval qui remportera le trophée Jean-Paul de Ponce qui récompense évidemment le meilleur cheval de la saison. On connaîtra également quelle équipe se verra remettre le trophée Yves Verrier, un prix relatif à l'expression du fair play. Nous saurons aussi quels sont les 3 joueurs qui composeront le podium WHBO des meilleurs joueurs de la saison Pro Elite. Et enfin, Raphaël Dubois, le sélectionneur national, divulguera la liste des 8 joueurs retenus pour intégrer l'équipe de France Pro Elite 2015 en vue du championnat d'Europe qui se disputera cet été du 27 au 30 août à Bordeaux.
Tout ça étant dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux de ces dernières journées, 2 dernières journées du championnat et quels sont les chocs au programme ?
Du côté du titre, si Arles-HEC a pris une grosse option pour la première place, tout est encore possible pour les joueurs bordelais. En effet, avec 2 points d'écart, rien n'est fait. D'autant qu'une confrontation directe est prévue entre les 2 formations au Haradjardy.
Le samedi, on aura droit à un véritable choc entre ces 2 équipes. En cas de victoire de Arles-HEC, le titre serait acquis. Pour autant, une victoire des Bordelais ne serait pas gage de sacre. En effet, la victoire girondine impliquerait une égalité entre les 2 formations avant l'ultime journée. 2 scénarios seraient alors possibles. Dans un premier temps, une victoire des 2 équipes et donc un sacre au goal average. Dans ce cas de figure, avantage à l'équipe d'Arles-HEC qui compte actuellement 10 buts d'avance et qui se verrait opposer le dimanche à Aramonsaz 7e, quand dans le même temps Bordeaux devrait affronter la redoutable équipe de Coutainville-Izéa 4e. Autre scénario envisageable, une défaite de l'une des 2 équipes qui serait automatiquement synonyme de sacre de champion de France pour l'équipe victorieuse. On appelle tout de suite un des membres de l'équipe d'Arles-HEC.
Bonjour les experts. Donc effectivement, on est plutôt en ballottage favorable du fait du petit faux pas de Bordeaux contre Loire-sur-Rhône chez eux, sur leur terre. C'est plutôt bien, c'est plutôt confortable psychologiquement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne va pas se cacher derrière ça. On a quand même des objectifs assez élevés en termes de résultats. Et on voudrait être champion... avec un peu la manière, c'était quand même l'objectif du départ. Et j'envisage pas de me retrouver sur la première marche, en ayant fait un petit match le samedi. Donc on en a déjà parlé, on travaille, on s'entraîne. Et le rendez-vous du samedi contre Bordeaux, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, qui nous tient à cœur. Et je pense qu'on sera au rendez-vous. C'est justement parce que Jardy 2014 reste un mauvais souvenir qu'on a à cœur de faire quelque chose de très bien en 2015. Jouer Bordeaux l'an dernier, on était déjà champion, on avait des problèmes de chevaux, des problèmes d'effectifs. Ça ressemblait quelque part à une farce et on s'est rendu compte avec un peu de recul que c'était manquer de respect un peu à la discipline, à nous-mêmes, que de se présenter comme ça sur une étape du championnat en se disant que c'était fait, qu'on allait s'amuser. En plus, eux, ils avaient quand même un objectif particulier. Ils s'étaient mis en mode, on va faire briller Benjamin De Pons, donc ça, il ne faut pas se le cacher. Ils avaient mis tout un plan pour faire briller Benjamin, qu'ils ont réussi à mettre en place, ce qui n'est pas facile, mais on les a bien aidés, quoi. On n'était pas du tout là, on n'avait pas ni l'effectif, ni l'état d'esprit. Pour nous, c'était plié, on n'était pas au rendez-vous. Et ce genre de choses, avec le recul, on s'est rendu compte qu'on s'était un peu trompé. Et on a vraiment envie de faire quelque chose de bien, je pense, cette année à Jardy, peu importe le classement actuel. Bordeaux, c'est nos meilleurs ennemis depuis toujours avec Chambly. Les garçons se connaissent très bien. Ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble en équipe de France, qu'ils jouent ensemble les uns contre les autres. Et c'est important de respecter le public, de se respecter nous-mêmes et de faire une prestation digne de ce nom, quoi. Le horseball mérite mieux qu'une farce. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, l'avenir de l'équipe d'Arles, parce que l'équipe d'Arles, c'est quand même quelque chose... C'est avant tout une histoire de potes. Arles, c'est ce qui nous a permis de nous réunir, mais il n'y a pas vraiment d'identité arlésienne. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de structure, il n'y a pas grand-chose dessous. Par contre, il y a une vraie histoire d'amitié. Et cette histoire d'amitié, les gars, ils se disent bien qu'ils voudraient arrêter. Ça fait quelques temps que c'est compliqué par rapport aux chevaux, par rapport aux vies des uns des autres, parce qu'il n'y a pas de professionnels, il n'y a que des gens dont le horseball est une passion, qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et c'est pas facile pour nous non plus. Les gens du horseball voient que l'équipe d'Arles, sur les week-ends, en tenue, qui essaye de faire des prestations plutôt réussies, ce qui est quand même vrai depuis maintenant 4 saisons, 5 saisons. On a vraiment envie que ça continue. C'est pas facile pour les uns, pour les autres. Et la raison voudrait que, déjà depuis quelques temps, on ait tourné la page, mais le cœur parle et les garçons ont un peu du mal à débrancher. Et la problématique, elle est sur le plan de l'affectif, et la problématique, elle est aussi sur le plan de l'orgueil, parce que se dire qu'on va faire une année de plus où on risque de ne pas être au niveau, ça, et je pense que les gars ne le supporteraient pas, et moi non plus. Ils ont envie d'être encore là, une année de plus ensemble, à passer des week-ends, à des amis, ceux qui sont dans la vie. Mais si le sportif n'est pas au rendez-vous, ils savent très bien que ça peut un peu mettre toute cette histoire en péril. Donc nous, on est dans une situation un peu comme ça, un peu difficile. On sait que si on veut continuer, on a le cheval de Mathieu Laguerre à remplacer, un jeu simple qui a plus le potentiel physique de répondre à des grosses saisons d'élite. Benoît a vendu son cheval. Mais Benoît, il ne peut pas arrêter, quoi. Benoît, c'est un gars, physiquement, il est au top. Dans le jeu, quand il l'a décidé, il est intouchable. Donc s'arrêter maintenant, ça serait une ineptie. Benoît doit continuer, Mathieu doit continuer. Alors, de ce que vont faire Mathieu et Benoît dépend la décision de Nicolas et de Mickaël. Donc vous voyez, c'est un peu un truc comme ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, je suis là, je suis un peu spectateur, je compte un peu les points. Mais en toute discrétion, je manœuvre pour que ça continue, parce que ces gars-là, sportivement, ils sont encore dans le coup. Ils se posent beaucoup de questions, parce que finalement, passé 30 ans, on sait que la carrière, le palmarès et la carrière, la majorité est derrière. Mais quand on a le physique, quand on a la capacité technique, quand on a l'enthousiasme, il n'y a vraiment aucune saison de se dire on s'en va, parce que il n'y a vraiment aucune raison, pardon, de dire on s'en va, parce que pour l'avoir vécu moi-même, le horseball, c'est quand même une drogue, une espèce d'adrénaline comme ça qu'on se met sur des week-ends. Et à partir du moment où on n'a plus notre dose, quand on est des passionnés, on vit des moments compliqués. Alors quand on a toutes les raisons de dire stop, il faut savoir dire stop. Mais quand au fond on n'a aucune raison de dire stop, faut continuer, quoi, c'est tout simple.
Derrière, Chambly ne devrait pas être inquiété, comme nous l'avons vu précédemment. L'équipe de Laurent Motard est quasiment assurée de finir sur la troisième marche du podium. Pour autant, l'étape de Jardy ne s'annonce pas de tout repos. Opposée aux équipes de Bellegarde 8e et de Lille 5e, la formation francilienne retrouvera donc la formation nordiste contre qui elle s'est inclinée lors de la phase aller. C'était à Saint-Lô. Lille était venue à bout de Chambly sur le score de 7-9.
Concernant la quatrième place, peu de changements à attendre également. Coutainville-Isère avance sans grand risque de se faire rattraper. À ce titre, c'est sûrement une bonne nouvelle pour l'équipe de Bordeaux qu'elle affrontera, de ne pas être opposée à une équipe jouant sa survie.
Derrière, la situation est plus complexe avec quatre équipes en autant de points. L'ultime étape promet quelques beaux rebondissements.
Oui, mais relativisons tout de même. Si les équipes de Lille, Angers, Aramon et Bellegarde sont au coude à coude, tout semble préservé de la relégation. À ce titre, le combat pour la fin de saison se résumera donc à essayer d'obtenir la meilleure place sans réelles conséquences. Et c'est bien ici que réside le caractère incertain de cette dernière étape. Entre les enjeux des prétendants au podium que nous avons vu précédemment et la bataille pour le maintien, ce sont des oppositions à distance qui nous attendent.
Il est également important de noter que très peu de chocs directs entre les équipes sont au programme de l'étape. Et on va plutôt assister à des matchs qui seront à double enjeu. En témoigne par exemple la rencontre entre Loire-sur-Rhône et Angers. Loire-sur-Rhône se bat pour son maintien, tandis que Angers se bat pour un meilleur finish sur ce classement et cette édition 2015 du championnat.
Comme le veut la traditionnelle dernière étape, les enjeux ne manqueront pas au Raja Jardy et les écarts réduits entre les différentes formations promettent un vrai combat sur chacune des rencontres.
Voilà, notre 9e et dernière émission de la saison de l'analyse des experts touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
Pour retrouver toutes les informations sportives et suivre la prochaine étape de Jardy avec des informations mises à jour en temps réel, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook de horseball.org.
Merci à tous
et bonne étape à Jardy.